7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à l'occasion du sommet climat qui se déroule aux portes de Paris, nous pensons aux jeunes en Afrique. Quel métier vert pour demain ? La transition vers l'économie verte pourrait générer jusqu'à 60 millions d'emplois supplémentaires à l'échelle mondiale. Combien de millions pour l'Afrique ? La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au climat vont-ils vraiment procurer des jobs aux jeunes diplômés ? Et si oui, lesquels ? Après quelle formation, quelles compétences ? Pour l'instant, une certitude, jamais les entreprises ne se sont autant engagées, mobilisées. C'est donc qu'il y a du business. Alors peut-être pas seulement du greenwashing, c'est-à-dire une communication opportuniste, nous sommes un business responsable, mais aussi de véritables transformations concernant la transition énergétique, mais aussi les transports ou encore l'agriculture. Certes, l'Afrique est le continent le moins pollueur de la planète, alors sera-t-elle concernée par ces nouveaux emplois verts ? On va en discuter avec nos invités. Moustapha Kamal Gueye, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes coordonnateur emploi vert à l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Maoumba Mabiala, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes direct, moi c'est Emmanuel, hein, on va faire
bonjour.
Simple.
Ok, bonjour Emmanuel.
Directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Vous pilotez le Forum international Jeunesse et Emploi Vert.
Entre autres.
Et justement, on reçoit un entrepreneur nigérien. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Abdou Maman Kané, fondateur de Techinov et son projet Télé-Irrigation. Vous avez reçu de nombreux prix, notamment un prix de l'OIF. Et vous allez nous expliquer en quoi vous représentez en partie la nouvelle génération d'entrepreneurs verts sur le continent africain. Les voisins, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Les compétences recherchées, les emplois à venir, appelez-nous dès maintenant surtout. N'attendez pas la fin de l'émission, notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter.
7 milliards de voisins.
12 décembre 2017, le sommet international sur le climat. Journée spéciale.
C'est Neka chez 7 milliards de voisins, extrait de l'album Hommage à Fela Kuti, dirigé par Leroy. Leroy qui sera d'ailleurs chez Couleur Tropicale jeudi prochain, ne le manquez pas. Moustapha Kamal Gueye, Maoumba Mabiala et Abdou Maman Kané. On va commencer avec vous, entrepreneur Abdou Maman Kané, parce que vous êtes à l'origine informaticien, développeur, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Formé où exactement ?
Au Niger.
Oui. Et comment en êtes-vous arrivé à créer votre entreprise de télé-irrigation dans le domaine agricole, précisément dans un milieu où les habitants ne sont pas connectés, ne sont pas informatisés et parfois même ne savent ni lire ni écrire ?
Alors, très bien. Je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez. Effectivement, l'idée de la télé-irrigation venait d'un constat réel que tous les développeurs en Afrique et particulièrement au Niger développe pour une minorité, c'est-à-dire une classe aisée qui avait toutes les possibilités d'en faire autrement que de passer par nous. Et à un moment, je me suis arrêté pour dire, écoute, la grande masse, les 87% de la population nigérienne ont plus besoin d'améliorer leurs conditions de vie et d'être connectés, mais personne ne s'y intéresse ou presque.
Ouais. Et vous-même, vous venez d'une famille d'agriculteurs ?
Oui, tout à fait, comme pratiquement l'ensemble des Nigériens.
Donc tous vous avez grandi avec les arrosoirs pour arroser le maraîchage ?
Tout à fait, Emmanuel, nous avons vécu ça toute notre enfance et nous avons grandi avec ça. Et pour vous donner la petite histoire, il y a eu des malformations pour juste prendre le seau et l'amener à une distance relativement longue par rapport à la capacité humaine. Mmh. Donc c'est toutes ces choses-là que nous avons dites et nous avons essayé de solutionner ça et de produire un concept qui peut permettre non seulement d'alléger cette corvée d'eau pour la puiser du sous-sol et la transporter à une distance relativement longue, comme j'avais dit, et essayer de le transférer sur le téléphone. En un mot, nous avons essayé de transformer le téléphone et le solaire comme étant un outil de production agricole. Et comment ? Tout simplement, quand nous mettons les systèmes d'irrigation étanche et conventionné qui va se diriger sur l'ensemble du périmètre et nous le connectons, la pompe qui va verser de l'eau, nous le connectons à notre boîtier tout simplement et ce boîtier est muni d'une puce GSM et on attribue un numéro à cette puce et on interface sur notre serveur le numéro du fermier au numéro de son champ et dès qu'il appelle un numéro simple que nous lui donnons, un numéro 142 pour le Niger, et ça va être probablement pour l'ensemble de
l'Afrique. Donc le fermier compose 142,
oui,
c'est ça ?
Oui, le fermier compose 142, il n'a à faire aucune manipulation, il y a une voix qui l'accueille, c'est un serveur vocal.
Qui le guide
et il lui dit bienvenue et restez un instant, on va déclencher et le système envoie un signal pour déclencher l'irrigation.
Alors,
tout simplement.
Bien sûr, il faut aussi des canalisations qui irriguent le périmètre du fermier.
En fait, préalablement à l'installation, nous venons mettre, comme je l'avais dit tout à l'heure, un réseau conventionné, normé d'irrigation sur le périmètre. Et ce réseau d'irrigation, nous le mettons en contact avec la pompe. Et entre la pompe et le réseau de distribution, il y a notre boîtier qui a une puce GSM et qui communique avec le fermier.
C'est la fin du gaspillage d'eau pour l'agriculteur ?
Tout à fait. Cette technologie est économe d'eau parce que elle optimise la distribution de l'eau qu'au besoin de la spéculation. Cela veut dire quoi ? Quand nous venons sur le périmètre du fermier, nous le demandons ce qu'il faisait avant, de l'existant. Il faisait telle spéculation et telle spéculation, tout le monde, s'il le check sur le net, elle fait, et on a fait une analyse, elle fait telle quantité d'eau par jour ou par un temps donné. Et nous lui administrons la quantité qu'elle a besoin. Donc, il n'y a plus de gaspillage d'eau pour la plante qui peut être néfaste pour elle, mais il y a aussi plus de gaspillage d'eau sur le transport pour amener l'eau d'un point à un autre.
Ouais. Et pour un agriculteur, ça coûte combien ce système d'irrigation, de télé-irrigation à partir d'un téléphone finalement, pour lui ?
Alors, pour l'acquisition de ces systèmes, c'est aussi simple que ça, c'est l'application et le boîtier. Mmh. Et tout cet ensemble coûte autour de 250 000 francs CFA seulement pour l'application et le boîtier. Mais il se trouve que l'irrigation, il n'y a pas que ces composants. Il y a l'énergie, il y a l'eau, il y a le réseau de distribution. Donc nous, à un moment, nous nous sommes arrêtés, nous avons dit nous allons faire le package. Et ce package, c'est ça qui coûte relativement cher parce qu'il faut amener des appareils photovoltaïques, des batteries qui ne sont pas défiscalisés dans notre pays, mais qui coûtent relativement cher. Et c'est tout cet ensemble qui grève le budget. Mais dans tous les cas, si on fait une répartition sur le nombre d'années, il n'y a pas match. C'est très rentable, c'est très économique parce qu'il y a un retour sur investissement.
Mais il faut que l'agriculteur débourse plusieurs centaines d'euros au départ pour s'équiper.
Tout à fait.
Vous avez créé combien d'emplois avec votre entreprise de télé-irrigation Abdou Mamane Kané?
Très bien. Donc, pour ce qui est de l'emploi, il y en a des dizaines de milliers. Pour la simple et unique raison, nous, notre entreprise, notre propre entité, elle emploie 7 permanents. 7 permanents qui travaillent, 7 employés permanents qui travaillent jour et nuit.
Informaticien notamment?
Informaticien et hydrologue. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons 12 entreprises sous-traitantes. Qui par côté eau, qui par côté énergie. Nous avons d'autres entreprises sous-traitantes et ces entreprises aussi utilisent de la main-d'œuvre pour sous-traiter nos actions. Et maintenant, en aval.
Donc des entreprises notamment qui s'occupent des canalisations,
c'est
par
ça,
exemple,
hein,
pour
ça,
installer
c'est...
l'irrigation sur les périmètres de l'agriculteur qui veut s'équiper.
Par exemple. Et maintenant, de l'autre côté, la création de l'emploi est assez importante quand il s'agit de mettre la ferme, d'automatiser la ferme. En ce moment, dès qu'il y a l'automatisation de la ferme, il y a le besoin d'accroissement de la superficie. Et qui dit accroissement de la superficie fait la demande d'une autre main-d'œuvre qui va faire le défrichage, le binage et tout ça là. Donc, sur chaque ferme, nous avons une estimation d'au moins 10 autres personnes à mobiliser pour continuer le travail.
C'est-à-dire si vous faites... que cette télé-irrigation, en fait, elle transforme ensuite à la chaîne toute l'agriculture ?
Et effectivement, nous, notre système, il est un système de transformation radicale de l'agriculture sur toute la chaîne de production, de l'irrigation jusqu'à la fertilisation, en passant par l'abreuvage, en passant par la météo mobile.
Ça veut dire aussi qu'indirectement, vous créez des emplois. Alors certes, des emplois, des compétences techniques. Vous m'avez cité les informaticiens, les hydrologues. Là, ce sont des gens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Mais aussi derrière, d'autres emplois beaucoup moins qualifiés.
Tout à fait. D'autres emplois beaucoup moins qualifiés sur le périmètre, comme le défrichage, des manœuvres pour le défrichage, les manœuvres pour faire des binages, des manœuvres pour faire le décapage, toute cette chaîne de valeur et faire répiquer les plantes. Donc cet ensemble de la chaîne crée autant d'emplois que tous les secteurs tertiaires réunis.
Oui. Est-ce que vous pensez, parce que votre innovation, elle est très technique à la base, hein, vous êtes informaticien développeur vous-même, mais en même temps, elle est d'une extrême simplicité d'usage. Elle a été pensée pour des gens qui sont très peu allés à l'école, hein, les agriculteurs nigériens, voire pas du tout. Est-ce que les nouveaux emplois verts en Afrique doivent être pensés avant tout avec cette extrême simplicité d'usage, vous pensez, Abdouma Mankane ?
Tout à fait. Pour faire évoluer une technologie, il faut qu'elle s'insère dans un contexte. Et ce contexte africain est de semi-analphabète ou, comme vous l'avez dit, ou presque pas. Donc, nous, notre technologie, elle a été pensée pour d'abord des gens qui n'ont aucun accès à la technologie ou qui ne savent pas comment manipuler. Et pour cela, nous n'avons pas opté pour l'intelligence du téléphone. Nous avons opté pour plutôt les téléphones bas de gamme, sur lesquels n'importe qui peut se le faire et presque... Le 2 sur 3 des familles disposent de ce téléphone. Et mieux, nous avons activé seulement la partie voix sur laquelle tout le monde est friand et qui pouvait parler à tout moment et la voix, ça n'a pas besoin d'une connaissance particulière. Donc, notre système s'intéresse spécialement aux gens analphabètes, semi-analphabètes et pratiquement l'ensemble de la communauté agricole.
C'est de l'innovation frugale, comme on dit ?
C'est de l'innovation frugale et sociale, à impact social. Sur le développement de l'Afrique.
Maumba Abiala de l'Organisation internationale de la francophonie. Ouais. Monsieur Mabiala, est-ce que Abdou Mamane Kane nous montre une nouvelle génération d'entrepreneurs verts en Afrique ?
Oui, exactement. Et c'est ce que nous recherchons. Nous, à l'OIF, notre objectif, c'est encourager les jeunes à créer des emplois verts, des emplois dans le domaine de l'économie verte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié, avec le gouvernement du Niger, ce forum international jeunesse et emploi vert, FIJEF. Et nous travaillons avec des partenaires comme le Bureau international du travail. Abdou est justement un exemple vivant, parlant, de cette dynamisme, de cette créativité des jeunes. Nous, ce que nous faisons, leur donner l'opportunité de venir présenter leurs idées, leurs projets, leur donner l'opportunité de rencontrer des partenaires de techniques et financiers, leur donner l'opportunité de bénéficier d'un petit financement qui leur donne un petit coup de pouce qui leur permettra d'aller plus loin. Et c'est ça l'objectif du Forum international jeunesse et emploi vert que nous organisons régulièrement. Et je signale que le prochain forum va se tenir à Niamey, au mois de mars 2018.
Voilà, alors on fait cette émission évidemment pour l'ensemble des auditeurs et pas seulement les voisins au Niger. Quels sont les métiers verts d'aujourd'hui et de demain ? On a eu l'exemple d'Abdou Mamane Kane qui reste bien sûr avec nous dans le studio. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Faut tenir compte des voisins.
7 milliards pour moi c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
7 milliards et demi d'ailleurs maintenant, aujourd'hui on est, et si possible, ça serait bien qu'on puisse protéger la planète. Nous faisons cette émission évidemment à l'occasion du sommet climat. Nous prenons vos questions, les voisins, d'ici quelques minutes, juste après le flash. Moustapha Kamel Gueye, sur les 60 millions d'emplois qui vont se créer, alors ça c'est la fourchette haute, hein, à l'échelle de la planète, combien va-t-il y avoir d'emplois verts pour l'Afrique ?
Oui, alors vous avez parlé de 60 millions d'emplois qui sont des données du rapport que le BIT a publié en 2012, mais ce sont des chiffres en croissance. Nous sommes en train de produire un rapport qui va être publié l'année prochaine, l'aperçu sur la situation économique et sociale du monde. Et c'est des chiffres qui sont en progression, mais il y aura des millions d'emplois possibles.
Y compris pour l'Afrique.
Pour l'Afrique, évidemment. Abdou a parlé de cette opportunité dans le secteur de l'agriculture où il y a un retour vers l'agriculture qui se fait en Afrique, mais un retour qui apporte des innovations. Il ne s'agit pas de demander aux jeunes d'aller faire la houe, la machette, mais comment allier...
Ça, de toute façon, on l'a vu, ça ne marche pas, ils ne veulent pas, hein, ils préfèrent aller en ville.
Voilà, l'innovation technologique avec la production agricole. Donc, c'est ce secteur de l'agriculture, la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles. Donc, tous ces secteurs sont porteurs de millions d'emplois en Afrique.
Est-ce que les emplois vont se situer davantage sur la lutte contre le réchauffement climatique ou davantage sur l'adaptation au changement climatique, ce qui n'est pas la même chose?
Oui, évidemment, l'adaptation au changement climatique, c'est la priorité pour les pays africains. Et si vous regardez ce que l'Afrique a proposé comme action dans le cadre de l'accord de Paris, c'est la Grande Muraille Verte qui permet de reboiser l'Afrique de la partie ouest à l'est. Des écosystèmes, pas seulement des plantations, reboisement, mais en créant des écosystèmes économique de gestion des ressources naturelles. Donc, c'est remise en place du lac Tchad. Donc, c'est vraiment cet agenda d'adaptation qui est au cœur de l'action des pays africains.
Et donc, un agenda très agricole. Mais on dit aussi que le combat se gagnera dans les villes, en tout cas à l'échelle de la planète. Alors, est-ce que ce sera le cas pour les villes africaines qui afficheront la plus forte croissance dans les années à venir? Est-ce qu'il y aura des emplois aussi du côté de l'urbanisation?
Oui, tout à fait. Le secteur du transport, mais aussi l'accès à l'énergie. Parce que lorsqu'on parle d'accès à l'énergie, on pense en Afrique que c'est un problème en zone rurale. Mais c'est des problèmes en zone urbaine.
Ouais, les voisins à Kinshasa savent de quoi on parle.
Voilà, tout à fait. À Dakar, partout dans les capitales, les producteurs, les tailleurs perdent beaucoup de chiffres d'affaires en cause des coupures. Donc, comment trouver des sources d'accès aux énergies renouvelables en Afrique, dans les zones urbaines? Comment créer des micro-entreprises qui vont installer ces systèmes?
Des systèmes notamment solaires, hein, qui peuvent être individuels, dont le coût a beaucoup baissé, qui peuvent se mettre sur le toit des maisons et permettre de ne pas dépenser d'argent, des sommes importantes, notamment dans les générateurs, hein, qui marchent au gazole.
Absolument, les chauffe-eaux solaires, mais avoir des business models qui fonctionnent, qui permettent aux populations d'avoir accès à des systèmes, de pouvoir les payer dans un modèle qui fonctionne et qui crée des emplois.
Donc, vous parlez beaucoup de l'auto-emploi à l'OIT. Quelle forme auront ces emplois? On sera plutôt dans le formel qu'aujourd'hui, on est surtout dans l'informel. Est-ce que ce seront des entrepreneurs de petites entreprises, des salariés? Comment vous voyez les choses?
Alors, le gros défi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs par défaut qui sont dans l'informel et qu'il faut faire passer à des entrepreneurs à dessein. Et ça, c'est la question de la formation en entrepreneuriat. Donc nous, ce que nous faisons au BIT, c'est voir des innovations comme ce que fait Abdou, des entrepreneurs comme ça qui ont des compétences techniques, mais les accompagner dans la gestion avec des outils comme Germ, gérer mieux son entreprise, qui permet d'avoir cet accompagnement local avec des formateurs. Il y en a 65 000 formateurs Germ qui parlent les langues locales à travers le monde et qui accompagnent ces jeunes pour faire en sorte que ces entreprises survivent. Ouais. Et c'est ça la difficulté, la survie des entreprises.
Maman Abdou Kané, vous savez de quoi on parle, hein, sur la survie des entreprises, puisque vous êtes le fondateur de Tech Innov et de ce fameux projet de télé-irrigation dont nous parlions. Mais vous n'êtes pas à la base un commercial né, un gestionnaire né. Et pourtant, vous avez pondu cette innovation du côté de l'agriculture. On va en parler. Quelles seront les compétences nécessaires? On se retrouve dans 3 minutes avec vos questions, les auditeurs, au 33 1 84 22.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. À l'occasion du sommet climat, on parle des métiers verts pour demain et d'ailleurs aussi pour aujourd'hui. En Afrique, vous en êtes la preuve vivante, Abdou Maman Kané, puisque vous êtes entrepreneur nigérien. Vous avez fondé Tech Innov et son projet de télé-irrigation dont vous nous parliez en première partie d'émission. Une innovation tout à fait spectaculaire pour les agriculteurs au Niger et pour donc remplacer l'arrosoir et son gaspillage d'eau via un simple téléphone, même pas un smartphone, où on appelle un serveur vocal qui ensuite vous guide, pratique quand on est agriculteur, qu'on n'est pas allé à l'école, et qui déclenche l'irrigation. Alors bien sûr, ça demande des investissements, quelques centaines d'euros pour les agriculteurs, mais ça conduit aussi à des changements très larges ensuite sur la façon de cultiver. Vous employez moins de 10 personnes dans votre structure, vous nous le disiez, des informaticiens, des hydrologues, hein, spécialistes de la gestion de l'eau, mais derrière il y a aussi des emplois et des compétences, des emplois non diplômés, avec des compétences très simples pour mettre en place les systèmes d'irrigation. C'est ce qu'on appelle des emplois verts au sens très large du terme. Mustapha Kamel Gay, vous appartenez à l'Organisation internationale du travail. Et Maumba Mabiala à l'Organisation internationale de la francophonie. Les voisins, c'est le moment de poser toutes vos questions sur ces nouveaux métiers verts en Afrique. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message de Janvier qui est à N'Djamena. Et il nous dit qu'au Tchad, le changement climatique engendre le faible rendement agricole, la faim et les maladies provenant de la sous-alimentation. Il faut que l'État finance les projets agricoles pour maximiser l'économie, réduire la pauvreté tout en investissant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais on parle évidemment beaucoup d'adaptation au changement climatique. Gérard, qui est à Antananarivo, à Madagascar, alors lui, il est intéressé par une reconversion vers un emploi vert. Il s'interroge, l'impact du changement climatique à Madagascar bouleverse les activités agricoles du pays. Quels sont les acteurs concernés par le changement climatique? Quel est le rôle de l'État? Que doivent faire les gens qui exercent dans ce secteur? Vous voyez, on a beaucoup de questions forcément autour de l'agriculture. Et d'ailleurs, vous le disiez, Mustapha Kamal Gay, l'agriculture sera probablement le premier des secteurs en Afrique à voir ces métiers tout à fait transformés. C'est bien cela, hein?
Oui, absolument, à cause de l'impact du changement climatique dans l'agriculture en termes de productivité. Vous savez, les rapports du groupe intergouvernemental sur le changement climatique parlaient d'un déclin possible de 50% de la productivité agricole qui dépend de la pluviométrie. Donc, c'est un secteur...
Productivité qui était déjà pas très élevée en Afrique. Il faut dire les choses comme elles sont.
Absolument. Donc, c'est des défis énormes. Et comment maintenant trouver des solutions innovantes de renforcement du secteur, sa résilience et d'augmentation de la productivité.
Nous prenons un auditeur, Alioune, qui est à Thiès et qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Alioune, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Vous résidez à Thiès, pas très très loin de Dakar d'ailleurs, on vous écoute.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités et bonjour aux voisins et voisines. En fait, oui, j'habite à Thiès, à 70 km de Dakar. Et je suis un électricien industriel et solaire. Je suis membre également de la Chambre des métiers de Thiès, dont je suis le président du filière énergie. Donc, comme je le disais tantôt à votre correspondant, l'énergie solaire est actuellement un domaine où on peut trouver à boire et à manger. Et l'énergie du futur, mais également, c'est une possibilité pour donner de l'emploi durable aux jeunes Sénégalais et Africains en général. Mmh.
Alors Alioune, pour en venir au fait de votre intervention, je crois qu'en tant qu'électricien solaire, comme vous vous présentez vous-même, vous avez travaillé en Guinée, c'était il y a quelques années, pour installer 25 000 lampadaires. Hein. Et ensuite, vous êtes retourné au Sénégal pour développer ce secteur. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce propos?
Bon, à propos de cela, je dirais que nos États n'encouragent pas du tout l'esprit d'initiative. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau privé, tout ce qui se fait est fait au niveau étatique. C'est l'État qui est à l'initiative de tout ce qui est solaire et énergie renouvelable. Mmh. Alors donc, au niveau privé, nous aimerions que l'État fasse plus d'efforts et s'engage davantage à encourager l'esprit privé, l'esprit d'initiative, quoi.
Oui.
En quelque sorte.
Mais par rapport à la Guinée, où vous avez installé des lampadaires solaires, donc de l'éclairage public, hein, si j'ai bien compris, vous trouvez que le Sénégal ne se mobilise pas suffisamment?
Non, du tout. Par rapport à la Guinée, si véritablement les présidents africains avaient la même vision qu'Alpha Condé, à l'heure actuelle, je peux vous dire que dans les 10 prochaines années, le Sénégal et l'Afrique en général aura résolvé ce problème, ce gap énergétique.
C'est ça. Donc vous trouvez qu'il n'y a pas d'investissement dans les métiers verts. Merci à Alioune de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on donne la parole à un autre voisin qui est à Barcelone, mais qui veut parler de la Casamance. Bonjour Zal.
Bonjour.
Vous êtes Sénégalais, je présume.
Oui, je suis Sénégalais d'origine de Ziguinchor.
D'accord.
Oui, bon, à propos de l'environnement, la protection de l'environnement et le développement durable sont des enjeux majeurs pour notre société. Ce qui se traduit par des besoins en termes d'emploi et des possibilités de formation de plus en plus nombreuses.
Oui.
Nous sommes dans le secteur du tourisme durable intégré,
oui.
C'est-à-dire des campements dans des villages.
Mm-hmm.
Bon, on voulait que l'État fait ou bien forme les jeunes des villages, des différents villages, sur la question de l'environnement, la protection de notre environnement, de notre nature.
Oui.
Oui, c'est ça. En fait, on fait des excursions sur des mangroves, montrer les gens comment notre mangrove se développe sur notre fleuve, tout ça. On explique les femmes ne pas cueillir les huîtres directement à déraciner la racine du mangrove, tout ça. On a fait cette sensibilisation. Comment cueillir les huîtres. Vous connaissez les huîtres?
Oui, bien sûr. Oui.
Oui, des fois, les gens déracinent, tirent la racine pour enlever. Tout ça, ça tue l'arbre, tout ça. On est là, on n'a pas une bonne formation de toutes ces choses-là. C'est cela qu'on appelle l'État de nous aider, d'aider les jeunes de la Casamance, comme c'est la région la plus verte du Sénégal, d'aider les jeunes à sensibiliser, à connaître leur environnement, à protéger l'environnement.
Donc votre question, c'est pourquoi l'État sénégalais ne se mobilise pas pour former des jeunes et faire d'une pierre deux coups d'ailleurs, hein, c'est-à-dire les former à mieux protéger leur environnement dans une des plus belles régions du Sénégal, la Casamance, une région extrêmement verte, hein, et en même temps développer le tourisme durable, hein, pour que les étrangers et les jeunes fassent front pour la protection de la nature et puis que ça puisse en plus rapporter un peu évidemment à l'économie locale. C'est une très bonne question. Merci de nous avoir appelé. Vous continuez de nous appeler sur les métiers verts 33 1 84 22 71 71. Moustapha Kamal Gueye, je ne m'adresse pas à vous seulement parce que vous êtes Sénégalais, mais parce que vous êtes de l'Organisation internationale du travail. Mais sur la question du rôle des États, on le voit bien, les auditeurs disent mais il y a des jobs, il y a plein de choses à faire et ça ne bouge pas.
Oui, alors juste, je pense que les points que Aviune et Zav ont mentionnés sont très pertinents. Et bon, ça me donne l'occasion de parler d'un programme qui est actuellement en train d'être mis en œuvre au Sénégal, qui s'appelle le Programme d'appui à la création d'emplois verts, le PACEV. C'est un programme financé par l'État du Sénégal, le PNUD et le partenariat en faveur d'une économie verte. Mais c'est un programme qui est intéressant parce qu'il cible 5 filières particulières. Il y a la filière de gestion des déchets, il y a la filière de l'écotourisme dont Zal a parlé, la filière des énergies renouvelables, Entre autres, je vais m'en limiter à ces questions parce que ça concerne les points d'Avune et ZAV. Ouais. Et en fait, ce que le passé fait, c'est de développer des prototypes pour ce qui concerne le solaire, des programmes. C'est des tricycles qui permettent de faire la recharge d'appareils électroniques et électroménagers en zone rurale. Donc cette année, le passé va commencer à être opérationnel. Ils ont mis en place 10 prototypes
Il en faudra beaucoup plus, évidemment, pour sillonner dans les villages. Plus.
Et l'autre phase qui est aussi intéressante et qui concerne un peu le tourisme, mais ce qui se fait avec les huîtres, mais aussi la production de lait et la production de pisciculture. D'ailleurs, il y a eu aussi 10 prototypes qui ont été mis en place cette année, en particulier dans la région de Kolda. Et ça permet de transporter le lait, de transporter la production agricole. Et donc, c'est des jeunes, pour ce qui concerne les isothermes, en particulier des groupements féminins, qui sont ciblés. Et donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est...
Il y a une partie formation, donc, dans ce programme ?
Voilà, une partie formation dont nous nous occupons au BIT. Donc, j'ai parlé tantôt de cette formation « Gérer mieux son entreprise ». Il y a une quarantaine de formateurs germes au Sénégal, répartis dans les différentes régions. Donc, il y a 2 semaines, j'étais à Dakar, où on avait une vingtaine de ces formateurs du Sénégal, de Kolda, de Casamance, de Djourbel, en les formant en entrepreneuriat vert, pour qu'ils puissent accompagner ces porteurs de projets qui sont appuyé et financé par le PASEF. Donc moi, ce que je ferais, c'est immédiatement mettre en contact nos collègues Avune et ZAL avec mon ami Baba Dramé qui coordonne ce programme PASEF au Sénégal, et je pense qu'il y aura des possibilités d'aller sur du partenariat concret.
Alors, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on va mettre les liens sur notre page pour ce programme, pour ce PASEF. Qui nous appelle ? Inza. Inza nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Inza, soyez le bienvenu.
Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe réellement une documentation d'information destinée aux étudiants.
Concernant les métiers verts en Afrique.
Concernant les métiers verts, ça va faire vivre réellement une documentation d'information destinée aux étudiants.
C'est une bonne question, parce qu'on a l'impression que les initiatives se multiplient. Vous parliez de ce programme au Sénégal. Les jeunes ne sont pas au courant de ces programmes. Et finalement, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'organisme capable de centraliser à la fois les initiatives, les programmes de formation, notamment d'ailleurs des programmes de formation qui ne passent pas forcément par l'université. Les emplois verts d'aujourd'hui et de demain sur le continent africain ne sont pas que des emplois à bac plus 5, il faut bien le dire. On n'arrête pas de donner des exemples d'ailleurs. Alors, quelle réponse pour ces jeunes ?
Alors, d'abord, l'information est disponible. Évidemment, les jeunes doivent aussi faire l'effort d'aller chercher l'information. Maintenant, les choses sont quand même relativement faciles par rapport à il y a quelques années. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur sur Internet. Il y a des instituts de formation qui existent. Nous, à l'OIF, nous avons un portail www.jeunesse.francophonie.org où nous essayons de rassembler toutes les informations qui peuvent intéresser les jeunes. Mais ce n'est pas la seule source d'information. Les informations existent. Mais je voulais souligner par rapport au rôle de l'État qu'il y a quand même un changement. Les choses commencent à bouger. Je vous donne l'exemple. Il y a quelques semaines, nous, à l'OIF, avec notre institut que nous avons créé il y a 2 ans, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, qui est basé à Dakar, nous avons pris l'initiative de réunir les ministres en charge de la formation professionnelle et technique et les représentants des patronats de plusieurs pays francophones d'Afrique. Et l'objectif, c'est leur permettre de discuter pour harmoniser, établir le lien entre les besoins du marché du travail et les contenus, les formations, les réponses, l'offre de formation. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, effectivement, que ce dialogue-là, c'est extrêmement important. Parce que les chefs d'entreprise nous disent, oui, mais nous avons besoin de telles compétences, mais on ne trouve pas ces compétences sur le marché du travail, parce que les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des écoles, n'ont pas ces compétences.
Oui. Alors, il faut dire aussi que l'Afrique a quand même un large retard sur les formations techniques. Donc, est-ce que les métiers verts vont donner une impulsion solution pour enfin rénover les formations techniques? C'est toute la question. Abdou Maman Kané, en tant qu'entrepreneur, fondateur de Techinov au Niger, projet de télé-irrigation, est-ce que vous aussi, en tant qu'entrepreneur, à l'heure actuelle, vous manquez de compétences? Vous souhaitez recruter des jeunes qui n'existent pas pour le moment?
Je vous remercie encore. Et effectivement, les compétences pour l'entreprise et pour développer l'entreprise, on en a toujours besoin. Mais ce qui est lieu de rappeler ici, en fait, dans le métier vert, les jeunes ont, et de façon innée, une compétence. Parce que tous, ils ont grandi, ils sont nés dans un milieu rural, dans un milieu agricole. Donc ça, c'est une capacité qui leur est propre, qu'il faille développer. Donc la formation, on va leur ajouter les nouveaux concepts, les nouveaux. Mais dans la généralité, ils sont enclins, ils ont des dimensions qui leur permettent d'aller directement au métier vert. Mais maintenant, pour bien gérer, pour optimiser la production, pour tout ça, là, il faut des compétences extérieures. Oui, effectivement, nous avons besoin des compétences et elles n'existent pas. Donc, il faut
des centres. Oui. À quoi vous pensez?
Tout de suite, l'automatisme, cette histoire d'automatiser avec le téléphone, ça, je suis demandeur et preneur.
Donc,
des
spécialiste
de l'automatisation, je suis demandeur
donc,
et présentement.
Ça, c'est quelle filière exactement?
En fait, c'est l'électronique avancée,
c'est
l'intelligence artificielle.
Pas forcément ingénieur d'ailleurs.
Pas forcément ingénieur. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais pourtant, j'ai développé l'application. Mais vu la demande.
Est-ce que vous pouvez le redire aux auditeurs, ça, que vous n'êtes pas ingénieur. Et pourtant, vous êtes entrepreneur. Vous avez gagné de très nombreux prix dans le monde entier.
Et je le répète bien, je ne suis pas.
Ingénieur.
Oui,
hein.
Je ne suis pas ingénieur. Et en réalité, développer, il suffisait d'avoir la volonté, la capacité. Et comme l'avait dit M. le directeur Mabella, de nos jours, les choses sont faciles. Pratiquement, parce qu'il suffit seulement de s'y engager. Il y a quelque part dans la planète, dans l'Internet, quelque part, quelque chose qui a été commencé ou qui doit être achevé pour le faire. Mais bref, c'est pour vous dire qu'en réalité, pour des compétences dans le métier vert, on n'a pas besoin de grandes capacités, de grands diplômes universitaires. Et pour preuve,
technicien dans l'automatisation,
jusqu'à maintenant, nous avons produit au moins 2 brevets sans l'ingénierat. Et alors que dans le temps, sans l'ingénierat, c'est-à-dire que je ne suis pas ingénieur et j'ai à mon actif 2 brevets où avant c'était les chercheurs, comme on l'a dit, talentueux qui produisent des brevets. Et ces brevets-là, il est utile et vous l'avez constaté, il permet de résoudre un problème réel de l'Afrique. Et mieux, comme j'ai dit, je parlais toujours de la compétence innée aux jeunes entrepreneurs, il suffisait seulement d'aller sur le terrain, l'apprentissage s'est fait naturellement. Parce que l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de secret où il y a un brin de programme ou de script quelque part. Il suffit d'y aller sur le terrain et on y apprend.
Ouais.
Moi,
j'aime
suis informaticien.
J'aime bien la formule. Ce n'est pas quelque chose de secret, l'agriculture.
Oui.
Alors, l'agriculture, plus un peu d'informatique et on révolutionne tout ce monde-là.
Je ne suis pas agronome. Je suis informaticien. J'y suis rentré et Dieu merci, on a pu solutionner une partie des problèmes de la communauté. Et mieux, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, avec ces fléaux des jeunes qui sont nombreux, on a créé la ferme digitale écologique, une sorte d'entreprise agricole clé en main, un métier vert, tout à fait par le téléphone. Et vous le savez, le téléphone, c'est ce qui est le plus friand chez les jeunes. Et si vous leur mettez ce téléphone à la terre, tous, ils vont revenir à la terre et ils vont utiliser, automatiser l'ensemble de la chaîne de production.
Voilà. Cultiver des applications.
Oui, c'est ça. Mais j'aimerais quand même nuancer un petit peu ce que dit Abdou. Abdou parle, disons, de ce que je pourrais appeler sur le plan technique des prédispositions, des facteurs prédisposants. Il y a des prédispositions. Oui. Mais il faut quand même reconnaître, dire la formation similaire soit-elle, si c'est important pour permettre à ces jeunes-là d'avoir de s'insérer dans un système qui permet de créer la richesse. Parce que c'est ça que nous voulons.
C'est très important
que dans les systèmes éducatifs s'adaptent au contexte actuel. Le système éducatif doit faire en sorte qu'il y ait des métiers qui n'existent pas encore, mais on doit penser et commencer à intégrer. Par exemple, j'ai été très impressionné quand vous dites à Lyon de Thiès, qui a été en Guinée installé 25 000
lampadaires.
25 000 lampadaires. Maintenant, demandez dans tous nos pays-là, combien y a-t-il de jeunes électriciens capables, qui ont ces compétences-là? C'est ça, justement. Et c'est ça d'avoir ces compétences qui permet de trouver
donc,
du travail.
On cherche des électriciens solaires, pas forcément des ingénieurs à Bac+5. Ouais. On est bien d'accord dans cette nouvelle économie verte qui doit absolument décoller sur le continent africain. Puis, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Vianney qui nous appelle de Lomé. Bonjour Vianney.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Vianney, vous êtes togolais, j'aimerais bien que vous, qu'on concentre votre intervention sur le Togo, si vous le voulez bien.
Ok, je suis un agronome de formation à Lomé. Ma question est de savoir, est-ce que il y a des filières de, du métier vert? C'est ma première question.
C'est-à-dire, vous êtes en troisième année d'agronomie à l'université de Lomé, c'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Donc, par définition, vous êtes plutôt pas trop mal formé pour vous insérer dans la nouvelle économie verte sur le continent africain, je pense. Vous en êtes conscient?
Oui, oui.
Donc, vraiment. Donc, quel est je ne comprends pas bien la question que vous vous posez, parce que vous avez déjà fait un bon choix de filière.
Oui, moi je parle en termes du master.
Oui, Vianney?
Les filières en master du métier vert, c'est la première question. Mm-hmm. La deuxième question, c'est de savoir s'il y a des structures ou des organisations qui promeuvent de l'emploi aux jeunes licenciés.
Ouais. D'accord, alors là, ça concerne vraiment les diplômés d'université. Au niveau des masters, qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qui s'adapte à l'économie verte?
Alors, moi, je dirais qu'il y a une intégration de la dimension environnementale dans toutes les formations qui se font en ce moment. Donc, dans le cadre du programme en faveur du partenariat en faveur d'une économie verte, nous travaillons avec l'UNITAR, qui est le centre de formation des Nations Unies, à intégrer cette dimension environnementale dans les formations au niveau universitaire et au niveau technique, même dans les écoles d'administration. Donc, nous en avons parlé juste il y a 15 jours à Dakar. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'emploi vert, de façon générale, ce qu'on va voir, c'est qu'il y aura de nouveaux métiers, des corps de métiers qui vont émerger, mais il y aura en particulier et beaucoup plus une transformation des métiers existants. C'est-à-dire comment un technicien, un électricien peut appliquer sa formation dans le domaine du solaire, dans le cadre de l'efficacité énergétique. Et ces changements, ça se voit partout. Je vous donne une anecdote. J'ai fait venir chez moi un électricien en France il y a quelques jours pour un problème de connexion. Quand il est venu, il n'est pas seulement allé voir qu'est-ce qui ne marchait pas avec la prise. Il a vu l'ensemble de la maison. Il m'a conseillé sur ce que je peux faire en termes d'isolation thermique. Il m'a conseillé sur les politiques fiscales dont je pourrais bénéficier. Et ce genre de transformation.
Et vous avez vendu tout un package.
Tout un package. Voilà.
Il était bien formé au marketing.
C'est ce genre de transformation qu'on va voir. Des agriculteurs qui vont pouvoir s'appliquer dans les questions d'adaptation au changement climatique, des techniciens électriciens qui vont pouvoir se déployer dans le solaire, etc. Mais il faut cet accompagnement.
Maman Abdoukane, vous avez développé votre entreprise un peu partout au Niger. Vous avez un plan d'expansion sur plusieurs régions d'Afrique aujourd'hui. Comment vous voyez le développement de votre entreprise de télé-irrigation et comment vous voyez l'avenir dans cette formidable économie verte sur le continent?
Effectivement, nous avons un plan d'expansion que nous avons intitulé 2018-2021. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici à Paris, parce que mon pays, le Niger, organise une table ronde des investisseurs et nous présentons ce dossier. En fait, notre entreprise, certes jeune, mais elle a une forte demande en ce qui concerne ce nouveau métier, c'est-à-dire cette agriculture automatisée. Et cette demande, elle émane principalement et en grande partie par les jeunes. Les jeunes qui sont en quête d'un repère, les jeunes qui sont en quête d'un métier durable, inclusif. Et c'est ça que je vous parlais tantôt de la ferme digitale écologique qui les séduit beaucoup. Et pour ce plan d'expansion, nous visionnons toute l'Afrique de l'Ouest, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont je vais citer le Mali, le Burkina et tous ceux qui sont limitrophes du pays.
Et pas seulement sur la télé-irrigation d'ailleurs. Vous êtes en train de mettre au point des systèmes, des circuits d'eau potable, des choses comme ça.
Et tout à fait. Nous sommes, à partir de la télé-irrigation, nous avons été amenés par nos clients, par nos abonnés à imaginer d'autres concepts parce qu'à un moment donné, ils nous ont posé la question, effectivement, vous nous permettez d'automatiser l'irrigation, mais et nos animaux, comment on va faire? Il faut revenir pour les arroser. Alors, nous avons mis au point l'abreuvage automatique, toujours par le téléphone et le solaire. Oui. Ils nous ont demandé, mais la végétation a eu, les animaux ont eu, et pourquoi pas nous? Et alors, nous avons créé le kiosque d'eau potable en milieu rural par rayon ultraviolet, parce qu'ils en ont déjà des prérequis, il y a le solaire, donc ils peuvent le faire. Et mieux, ils nous ont dit, bah, écoute, on n'est pas là, comment on peut savoir ce qui se passe dans notre terrain? Et on a créé le scrutateur discret.
C'est le scrutateur discret. Scrutateur discret. Discret.
Une sorte de gardien virtuel qui, à distance, vous informe de la situation de votre périmètre en temps réel, ouais, et que vous avez la possibilité d'interagir.
Ça va mettre au chômage les gardiens, hein, quand même.
Non, en réalité, non. En réalité, non, parce que les gardiens, ils peuvent se mettre sur un autre coin du périmètre pour un travail, mais ils ne savent pas l'autre coin, ouais, à des milliers de mètres, ouais, ils ne savent pas ce qui se passe.
Donc sur voilà, l'exploitation
donc
agricole,
ils peuvent, ouais, ils peuvent agir dans ce sens.
Mais
donc
en fait, ce sont les consommateurs, enfin là les agriculteurs, mais les consommateurs de vos produits qui vous font évoluer, qui vous font grandir et qui vous donnent les, ouais, idées de tous, ouais, les besoins qu'ils, ouais, ont.
En fait, toute l'histoire de la télé-irrigation et de tout ce qui émane d'une dynamique collégiale. En réalité, c'est des besoins réels que nous essayons de résoudre. Et présentement, nous avons une entité recherche et développement qui est en train de s'activer pour encore produire d'autres concepts pour le besoin de la population sur lequel nous avons rencontré ces problèmes réels dans nos activités. Et le dernier concept, c'est la ferme digitale qui a fait le regroupement de toutes ces initiatives, de tous ces, un package de toutes ces solutions pour donner aux jeunes une entreprise viable, durable, inclusive, avec comme possibilité de résorber le chômage, ouais, de freiner la migration, de freiner cette velléité à aller vers le tourisme. Donc nous avons une solution complète. Et mieux, l'État du Niger et les communautés comme l'OIF s'intéressent à ces concepts pour pouvoir élaborer un modèle économique viable. Il est en expérimentation et il s'intègre dans le village intelligent du programme nigérien et aussi de l'OIF.
Comment,
et nous sommes en train de pouvoir le mettre à l'échelle, ouais, pour l'ensemble des jeunes
comment
africains.
Comment rendre sexy l'agriculture, hein, finalement, et freiner l'exode vers les, ouais, villes. On a aussi parlé bien sûr des emplois dans les villes. Merci à vous tous, Mustapha Kamal Gueye de l'Organisation Internationale du Travail, Maouba Bamabiala de l'Organisation Internationale de la Francophonie, et merci à vous Abdou Maman Kané, entrepreneur fondateur de Tech Innov et de son projet de télé-irrigation qui est extrêmement large. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. La parole est à ceux qui veulent entreprendre.